C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et aujourd'hui dans C'est ludique, on va s'intéresser à l'histoire de Rome et plus particulièrement à l'année 192. On est d'accord, on remonte loin dans le temps. Le 31 décembre de cette année, l'empereur Commode est assassiné. Bon, on ne va pas pleurer, hein, il a fait couler beaucoup de sang. Vous l'avez compris, il va falloir le remplacer à la tête de l'Empire. Mais avant de devenir empereur, il faut faire ses preuves. On ne devient pas empereur comme ça du jour au lendemain. Voici l'année des 5 empereurs. Un jeu de Roméo Aignon, l'équipe ludique et Clément Leclerc en partenariat avec Ludunum, le grand musée de Lyon. L'année des 5 empereurs, donc c'est un jeu de deck building édité par Gameflow. Vous allez incarner un haut dignitaire, puis une fois que vous vous sentirez assez fort, vous pourrez retourner votre plateau pour devenir un empereur. Votre but, remplir 4 objectifs. On va y revenir. Alors au niveau matériel, chaque joueur a un plateau. Il a un jeton base, des jetons légion et des cartes de départ. Au milieu de la table, on va placer un plateau central ovale représentant l'Europe et les différentes provinces. Sur chaque province, on placera des cartes. Voilà, la mise en place est terminée. Mais alors comment on joue? Je vous l'ai dit, il y a deux phases dans la partie. Celle de haut dignitaire et celle de l'empereur. Alors commençons par celle de haut dignitaire. Déjà, chaque joueur, que ce soit Pertinax ou Julianus, va constituer sa main de départ selon l'ordre du tour et prendre 3, 4 ou 5 cartes sur les 8 à votre disposition au début. Après, tout le monde en prendra 5. A votre tour, vous allez pouvoir défausser des cartes pour gagner des pièces d'or. Chaque carte que vous défaussez vous rapporte une pièce d'or. Sauf certaines cartes, comme les esclaves, vous donneront plus de pièces. Si je défausse 4 cartes, je gagne 4 pièces d'or qui me permet d'acheter une carte dans l'une des provinces qui a un coût de 4. Je place la carte achetée dans ma défausse, je mélange ma défausse, je la place sous ma pioche et refais ma main à 5 cartes. Le tour est terminé, un autre joueur fait de même et ainsi de suite. On va continuer comme ça un certain moment avant de préparer notre stratégie. Et au moment où on pense être prêt, eh bien on va retourner notre plateau pour conquérir le titre d'empereur. Phase numéro 2 de la partie, tout change. Déjà il va falloir choisir une province pour placer sa base. Puis mettre une légion. On peut toujours continuer à acheter des cartes dans sa province au même prix. En revanche, dans les autres provinces, la carte coûte plus cher maintenant, c'est plus de pièces. Mais oui, la grosse nouveauté, c'est que maintenant on va pouvoir jouer des cartes de sa main ayant un effet empereur dans notre zone empereur en dessous de notre plateau qui va nous permettre de faire une action. On pourra notamment ajouter une légion. Attention, la plupart de ces cartes s'utilisent une fois, elles ne retournent jamais dans votre défausse. Ah bah oui. Avec les cartes de votre main, vous pouvez gagner de l'influence aussi, peuple, politique ou armée. Ces cartes, vous allez les placer cette fois au-dessus du plateau, elles vont vous aider à récupérer des objectifs. Par exemple, l'un des objectifs est d'avoir au moins 3 points d'influence d'un même type. Alors après, vous pouvez gérer vos légions. Pour les recruter, vous jouez une carte dans votre zone empereur. Pour la déplacer, il faut payer une pièce d'or. Mais il se peut que vous arriviez dans une zone où un adversaire est présent. Dans ce cas, il y a un conflit. Et vous devez renvoyer une légion dans votre base. Vous la retournez car elle est vaincue. Et si vous voulez la récupérer, il faudra payer 2 pièces d'or. Pareil pour le copain qui a participé à la bataille. Alors ensuite, on mélange sa défausse et on refait sa main. Comme dans la phase de haut dignitaire. Mais au fait, je gagne quand ? La partie s'arrête quand l'un des joueurs a réalisé 4 objectifs et l'est déclaré empereur. Parmi les objectifs, avoir 3 points d'influence d'un même type, politique, armée ou peuple, avoir une légion mobilisée sur 3 provinces, dominer une province, si vous avez un point d'influence de chaque type, si vous contrôlez Rome avec 2 légions, si vous êtes corrompu, dépenser 10 pièces d'or sur un seul tour. Voilà entre autres les différents objectifs. Vous en avez 4, c'est vous l'empereur, on arrête tout de suite le jeu, on fait pas un dernier tour, non, le jeu s'arrête, vous êtes empereur, bravo, vous avez gagné. Alors pour la petite info, c'est Septime Sévère qui sera déclaré empereur en juin 1193. L'année des 5 empereurs est vraiment une belle découverte avec ce côté historique et c'est 2 temps dans la partie où l'on changera sa façon de jouer. On va continuer d'en parler avec Clément de Gameflow d'ici quelques instants, c'est juste après Amir et ce soir sur Millennium.
C'est ludique, l'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Clément de Gameflow. Salut Clément.
Salut Mathieu.
Alors, je viens de présenter l'année des 5 empereurs. Alors avant de rentrer dans l'histoire du jeu, on va présenter un petit peu Gameflow. Gameflow, c'est connu surtout pour la gamme Ma Première Aventure.
En effet, ouais. On est connu surtout pour ça depuis 2018, du coup le premier En Quête du Dragon.
Ouais.
Mais à la base, on faisait aussi des jeux de société. On avait édité 2 jeux avant.
D'accord.
Depuis 2016, il y avait un premier jeu qui s'appelait Chimère en 2016. Et notre deuxième jeu, Affinity, était sorti en 2018.
Ok. Et alors, comment est née l'année des 5 empereurs ? C'est une histoire un petit pas commune pour un jeu de société, si j'ai l'impression.
En effet, et pas commune pour nous non plus. C'était un cas un peu particulier, en fait. En plus, c'est pas nous qui avons trouvé l'idée, enfin, le projet, en tout cas.
D'accord.
C'est une équipe, des gens qui s'appellent l'équipe ludique, que certains connaissent peut-être, qui sont donc surtout des game designers parisiens, qui, du coup, font de la prestation de création sur mesure pour différents organismes.
D'accord.
Par exemple, ils ont travaillé avec le Louvre ou le Jardin des Tuileries ou Renault, par exemple. Et en fait, ils ont repéré une mise en concurrence, je crois que ça s'appelle, un peu comme un appel d'offres, par le musée Loupe-Dounoum à Lyon, le musée de la colline de Fourvière, qui voulait faire un jeu autour d'une partie un peu particulière de l'histoire romaine.
Mmh. Et alors, c'est un jeu finalement qui était prévu que pour le musée au début ou pas ?
Alors non, pas du tout. Du coup, le musée, lui, dès le départ, avait demandé dans son appel d'offres, à ce que le jeu soit créé autour d'une expo donc du musée,
ouais.
Mais soit vendu au musée après, mais aussi soit porté sur le marché par un éditeur.
D'accord.
Et c'est pour ça que l'équipe ludique, que je connais très bien personnellement, c'est des amis, se sont dit, il nous faut un éditeur, nous on n'est pas éditeur, on ne va pas le porter sur le marché, il nous faut un éditeur pour travailler, pourquoi on ne travaillerait pas avec Gameflow. Donc ils sont venus nous chercher, ils nous ont dit, ça vous dirait de travailler là-dessus. Et nous, ça nous a tout de suite emballé. J'aime beaucoup l'histoire.
Donc. Ouais. Mais oui.
C'est une bonne occasion.
Alors donc c'était prévu dès le début. Comment vous êtes réparti le travail avec les autres ?
Eh bien, nous, dans la mesure où, clairement chez Gameflow, quand on développe un jeu, on aime mettre les doigts dedans et travailler sur le design du jeu.
Ouais.
Donc du coup, dès le départ avec l'équipe ludique, c'était l'idée de se dire, on va créer ça ensemble. C'est-à-dire que Roméo et moi. Et l'équipe ludique, on était quatre à travailler sur le jeu, à chercher l'idée, à l'améliorer, etc. Et puis ensuite, ça va être, on va dire, pour la première partie, le prototypage initial, on était quatre personnes. Et ensuite, une fois qu'on était à peu près satisfait du travail, ensuite, on s'est réparti différentes choses. C'est-à-dire que l'équipe ludique a pas mal chapeauté la partie écriture des règles, écriture du livret historique.
Ouais.
Et nous, on a plus chapeauté les autres aspects, c'est-à-dire Roméo la direction artistique et moi la partie fabrication. Et puis la partie édition, c'est tout Gameflow par contre. Surmise sur le marché, tout ça.
Oui, bien sûr. Et quel est le retour aujourd'hui du musée ?
Alors, le musée, ils l'ont vu finalement assez tardivement. Ils l'ont reçu là en début du mois d'octobre.
D'accord.
Et parce qu'ils ne pouvaient pas le recevoir pour différentes raisons. En gros, tout début octobre, ils organisent ce qu'ils appellent le Festival Romain. Donc, il y a vraiment un gros événement chez eux. Et du coup, ils nous ont dit, envoyez-les-nous après. Donc là, ils viennent de les recevoir il y a quelques temps. Donc, ils sont en train de regarder. Ils prévoient de faire une journée autour du jeu d'ici Noël. Ils cherchent une date exacte maintenant. Mais ils ont eu l'air très contents. En tout cas, ils trouvaient que... Je ne sais pas s'ils ont retesté la version finale. Mais en tout cas, les boîtes et le livret historique leur ont beaucoup plu. Ils ont travaillé dessus aussi. Mais avec la version finie, tout illustrée et tout, ça... On trouvait que ça rendait très bien.
C'est vraiment sympa. Alors, c'est un jeu où il faut trouver le bon moment pour passer empereur. Il y a deux phases. Pour toi, quelle est la... Je ne vais pas dire la technique, mais quel est le meilleur moment pour passer empereur ?
Alors, ça dépend. Il y a plusieurs choses qui peuvent déclencher. Bon, déjà, c'est important. Enfin, ça peut être pas mal de se souvenir un petit peu des achats qu'on a faits.
Ouais.
Surtout des achats un peu emblématiques. Voilà, si on a pris des... beaucoup d'étoiles d'une couleur,
ouais, bah oui.
si on a l'impression d'avoir beaucoup d'armées, voilà, ça c'est des choses qui peuvent donner un peu une piste de se dire je dois avoir ce qu'il faut dans mon deck pour pouvoir atteindre trois ou quatre objectifs. Et après il y a un autre élément qui peut être très intéressant à prendre en compte, c'est quand j'ai une main de cartes qui est fort en empereur. Typiquement, j'ai des augures qui vont me permettre d'avoir plus de cartes en main sur les tours suivants ou des légions déjà en main. C'est un bon moment en général pour se déclarer
parce qu'on
va commencer à sortir les cartes du deck, on va commencer à cleaner notre deck et puis on va faire un tour plus fort et puis les tours suivants vont être encore plus forts.
Et dans ces cas-là, vaut mieux poser sa base à un endroit où il y a encore beaucoup de cartes pour que ça coûte moins cher ou vaut mieux justement qu'il n'y ait plus trop de cartes pour récupérer la carte en dessous.
On va dire que ça dépend du deck qu'on a fait. Si on a un deck qui est déjà assez rempli, il vaut peut-être mieux aller sur là où il n'y a pas trop de cartes pour pouvoir justement avoir cet objectif rapidement. Si on se déclare tôt, ça peut être valable, hein. Si par exemple on a la Sibylle de Cum qui est donc qui donne plus de cartes sur les tours suivants, ou l'équivalent est je crois que c'est le temple d'Artémis à Éphèse qui fait aussi plus de cartes. Ouais. Si on a ça en main, même presque tour 2 ou tour 3, ça vaut presque le coup de se déclarer. Dans ce cas-là, vaut peut-être se déclarer un endroit où il y a pas mal de cartes pour pouvoir avoir de quoi étoffer son deck. Mais on va, vu qu'on va avoir des tours où on va avoir beaucoup plus de cartes que les autres, on va peut-être un peu les prendre de vitesse. Donc, je pense que ça dépend vraiment du moment où on se déclare. Quand on est premier à se déclarer, ouais.
Bah, les autres suivent après, hein, j'ai remarqué.
Ouais. Si, ça, tout ça, c'est clair.
Si, si on se déclare, les autres suivent après.
Il y a un autre point d'intérêt, c'est Rome, hein, qui est du coup, qui nous facilite, si on se déclare à Rome, on a plus facilement marché sur Rome. Par contre, on va être le point de convergence.
Ouais.
Donc, il y a ça aussi. On est capable de tenir.
C'est vraiment un jeu intéressant que j'avais découvert à Cannes. Franchement, ce côté historique, c'est sympa. On n'a pas l'habitude de voir ça dans les jeux. De pousser autant l'historique, quoi.
Bah non, parce que là, c'était vraiment une demande du musée. Mmh. Et nous, ce qui nous a amusé, c'est de se dire, oui, on va vraiment s'appuyer sur cette histoire, s'appuyer comme ressort de création. Mais d'un autre côté, on veut vraiment faire un jeu auquel on a plaisir à jouer.
Mais
en tout cas, personnellement, c'est une réussite de ce point de vue-là. J'ai toujours grand plaisir à y jouer. Et je trouve que les parties ont un rythme assez endiablé qui me plaît beaucoup.
Ouais. Dernière chose, Clément, c'est quoi les projets Gameflow là pour pas fin d'année peut-être, parce que fin d'année ça va peut-être être compliqué. Fin d'année alors.
Fin d'année, on a la sortie de D'or Dragon D'Or qui est prévue.
Ah ben je l'avais vu là, aussi à Cannes. Ouais.
Ouais, il va arriver, donc un jeu pour enfants coopératif à partir de 5-6 ans, fouille et mémoire, très très rapide, très très facile à prendre en main. Il arrive donc normalement début novembre ou mi-novembre, courant novembre.
Avant Noël.
Il est très attendu. On est très content des retours qu'il y a dessus. Et après l'année prochaine, on a deux livres Ma Première Aventure qui vont sortir et un petit projet annexe à Ma Première Aventure qui va arriver. Enfin, une collection un peu connectée.
D'accord.
Qu'on travaille avec Antonin Bocara et Romaric Gallonier, qui sont des puzzles qui racontent des histoires.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Clément, de nous avoir parlé de tout ça. Et on se retrouve bientôt.
Merci à vous. Ouais, à bientôt.
Salut. Harry Styles sur Millennium. Et juste après, on retrouve Marie, qui doit être normalement en direct du chalet d'un monde de jeux.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors Marie, normalement et en direct du chalet d'un monde de jeux à la montagne, eh bien, le téléphone ne doit pas passer là-bas parce que j'arrive pas à la joindre. Mais on va la retrouver quand même, Marie, puisqu'elle avait rencontré Simon Caruso, illustrateur, et je vous propose qu'on se l'écoute maintenant.
Bonjour à toutes et à tous, et je vous retrouve dans Festiludique. Aujourd'hui, je suis avec Simon Caruso. Bonjour Simon.
Bonjour Marie, mais vous ici, c'est incroyable.
Voilà. Parle-nous un peu de toi. Qui es-tu?
Je suis Simon, enchanté.
Mais encore.
Je suis un mari, je suis un papa, et je suis accessoirement illustrateur.
Illustrateur. Et donc, du coup, illustrateur dans le monde du jeu ou un peu plus?
Un peu plus que ça. Pas forcément que du jeu. De plus en plus de jeux, en tout cas, selon les demandes, selon les rencontres. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce que tu illustres d'autre?
Qu'est-ce que j'illustre d'autre? Ça peut être beaucoup de choses. Je fais pas mal de communication. Je fais pas mal d'ateliers, bande dessinée, illustration et autres dans des milieux divers et variés, en milieu scolaire ou ailleurs.
Dessiner, écrire, griffer.
Voilà, et on peut rencontrer des humains sympas. Et voilà.
Super. Et notamment, du coup, Simon Caruso, vous pouvez le retrouver sur les boîtes de The Loop, puisque c'est toi qui as illustré The Loop, et c'est un peu The Loop qui t'a fait connaître.
Oui.
Tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme jeu de société? Qu'est-ce qu'on peut voir?
J'ai fait Cache-Cache Souris chez Jeux FK. C'était le premier jeu que j'illustrais. Là, ça remonte un petit peu, hein, 2014, je crois.
Oui.
Après, j'ai fait Rhythm and Play chez Facili Jeux. J'ai fait Yogi et sa suite Yogi Guru chez Gigamic. de Bez Chariari. J'essaye de, il faut que je cite les auteurs comme les autrices. Donc l'autrice de Yogi, c'est Bez Chariari. C'est François Corr qui est l'auteur de Cache-Cache-Souris. Et c'est Ludovic Barbe qui est l'auteur de Rhythm and Play.
Mais t'en oublies un quand même.
J'en oublie un
avant. Chez Kif Édition.
Chez Kif Édition, donc ça c'était après The Loop, oui absolument. Et puis là, la liste des auteurs est longue et glorieuse. Donc chez Kif Édition, j'ai illustré et fait le graphisme de Las Vegan. Donc qui est un jeu de Corentin Lebras, Baptiste Laurent et Ludovic Maublanc. Et un titre d'Antoine Boza, il faut quand même le souligner.
C'est vrai.
Voilà, c'est quand même... voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un sous-scellé.
Ah oui.
J'ai fait le sous-scellé 63 âmes, qui est de Théo Rivière et Chloé Blondel et Ben Renaud. Voilà, chez sous-scellé.
Tout à fait. Je l'ai vu passer. Et puis il y a plein de projets en cours.
Oui,
il y a des. Il y en a plusieurs. Notamment, il y a District Noir qui va sortir très bientôt en boutique.
Oui.
Où tu n'as pas fait l'illustration, mais tu as fait tout le graphisme.
Oui, oui, j'ai fait le graphisme. Donc, bah, après, tout ce qui est préparation de fichiers, mise en page de la boîte, mise en page des règles, tout ça. C'est Vincent Rocher, illustrateur, qui avait déjà fait les cartes et la couverture, le logotitre. Enfin, il avait déjà fait des petites choses. Et donc, moi, j'étais appelé pour remettre un petit peu en page tout ça. Donc bah, mon boulot est fini là-dessus. Hein. Là, le
voilà.
Jeu
puis va sortir
très bientôt.
Vendredi.
Ouais.
Il sort vendredi.
Ouais.
Mais si ça se trouve, cet enregistrement passera après et le jeu sera peut-être déjà sorti. Donc vous avez peut-être trouvé District Noir dans vos boutiques.
Et les auteurs, c'est. Je sais plus. Les auteurs, je voudrais pas.
C'est des auteurs japonais.
De prononcer mal leur nom des prénoms.
Oui.
Mais voilà, Vincent Rocher est français, donc c'est facile à dire pour moi. Mais les autres,
moi, je ne serais
pas. Voilà. Pardon,
je ne
pardon les auteurs. Pardon.
Mais très chouette jeu.
Ouais, il est vraiment bien.
Dans les prochains projets que tu as, notamment un projet chez Old Chap.
Oui.
Qui va être sur le prochain jeu Focus d'Antonin Bocara et Romaric Gallonier. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que tu fais, justement, sur ce jeu?
Eh bien, contrairement, comme on vient d'en parler, sur des projets comme The Loop ou Las Vegan, où je m'occupais de 100% des visuels, des préparations des fichiers, où je faisais autant vraiment tout ce qui est graphisme que illustration, là, je fais que l'illustration. Je fais que des dessins. C'est un jeu d'association d'idées. Donc, on a des cartes avec que des dessins dessus. Il y a quelques autres petites choses. Il y a Jules Messreau qui s'occupe de la DA et du graphisme. Mais moi, je fais que les dessins.
Voilà. Et donc, Focus, je vous en avais parlé dernièrement, mais il devrait arriver pour avril-mai 2023. Donc, du coup, c'est un jeu que vous pourrez retrouver en boutique. Mais en attendant, il sera sur les festivals. Justement, en parlant de festivals, parce que nous sommes dans Festiludique, est-ce que tu fais des festivals?
Alors, j'en organise pas. J'en visite, oui, avec grand plaisir, toujours. Mais ouais, j'essaye de me déplacer un petit peu. Bah, la semaine dernière, donc, j'étais à Vichy, sur le Salon Pro, parce que bah, c'est vrai que c'est un salon qui est à une heure de chez moi, donc j'en profite. Je profite que c'est pas loin. Mais sinon, je suis un grand fidèle de Cannes depuis une dizaine d'années.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'illustrateur, justement, d'aller dans les festivals?
Bah, en tant qu'illustrateur, c'est bien d'aller voir ce qui se fait graphiquement, par ailleurs. C'est bien de ne pas rester dans son coin et de se tenir au courant un petit peu de ce qui se fait. C'est un peu de la veille. Après, moi, j'y vais aussi pour mon plaisir de joueur. J'y vais pour avoir les copains. Éventuellement, trouver du boulot aussi, quand c'est pas du boulot qui me trouve. Donc, voilà, y a un petit peu plein de plaisirs comme ça qui se rassemblent dans les festivals.
Et donc, du coup, là, le prochain festival sur lequel on pourrait te retrouver, ce sera Cannes?
Oui.
Oui. Donc, Cannes en février 2023. Donc, il y a encore un peu de temps. Si on parle un petit peu de toi et de ce que tu fais, donc, tu es illustrateur de jeux, etc. Mais tu fais aussi de la sérigraphie sur Donjons et Crayons. Donc, si jamais vous voulez voir un petit peu plus en détail, on vous invite à les suivre sur Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots avant de finir?
Alors, deux, trois mots. La sérigraphie, nous, on fait de la sérigraphie donc artisanale, c'est-à-dire de l'impression à la main. En deux mots, ça fonctionne comme un système de pochoir qu'on fabrique à partir des dessins, soit les dessins que nous on fait, soit que les dessins que les gens vont nous donner, parce qu'on travaille aussi bien sur des créations perso que sur des travaux de commande. Et après, donc, on va imprimer ça donc, sur un certain nombre de couleurs données. Il y a tout un tas de petites contraintes comme ça. On va imprimer sur papier, sur textile, sur bois. Donc voilà, pour tout ce qui est tirage d'art ou alors marquage sur... là, on vient de faire des t-shirts ou des tote bags.
Enfin, des voilà, t-shirts pour Spiral Édition.
Absolument.
Du coup, donc si jamais vous êtes éditeur, que vous avez envie de faire vos t-shirts pour les festivals, n'hésitez pas à passer par Donjon et Crayon. En tout cas, merci beaucoup, Simon.
Merci, Marie.
C'était un plaisir. Et puis, à très bientôt. Et puis, vous suivrez un peu tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le suivre, Simon Caruso. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir, Simon.
Au revoir.
Hey, hey, wow.
Matt le matin, 7h-10h, dans ta radio.
Hey.